Bon, je réponds à ces questions. Peut-on dire que le bien spécifie mon amour? Mon intelligence le détermine. Pourriez-vous réexpliquer un peu cela? Oui, je veux bien le réexpliquer en montrant comment le bien spécifie l'amour et que l'intelligence, au sens rigoureux, ne le détermine pas. C'est l'inverse de ce qui est dit. Mon intelligence le détermine. Non. L'intelligence ne détermine pas ma volonté. Mon intelligence me fait connaître le bien, et le bien connu, en tant que bien, spécifie ma volonté. Ce n'est pas le bien connu en tant que connu qui détermine mon intelligence, qui détermine ma volonté. C'est un peu paraître subtil, mais c'est capital à bien comprendre. Le bien, pour être aimé, pour attirer ma volonté. Comprenons bien, je parle de l'amour. La seule expérience que j'ai, c'est l'amour. J'ai une expérience d'amour interne. Cet amour me fait aimer un bien. Cet amour provient de ma volonté, de mon cœur. Mon cœur profond, c'est-à-dire ma volonté. Je parle de... Toujours au point de vue philosophique, je parle de l'expérience. J'ai l'expérience interne qui est cet amour. J'ai l'expérience parfaite de l'amour d'amitié. Et j'essaie de comprendre comment cet amour me porte vers un bien. Le bien aimé. Le bien, c'est une personne, le bien spirituel. C'est une personne que j'aime. Bon, cet amour provient du bien en tant qu'il est connu. S'il n'est pas connu, il ne peut pas m'attirer. Donc, condition sine qua non pour que le bien exerce son attraction sur ma volonté, c'est qu'il soit connu. Mais la connaissance ne détermine pas mon amour. C'est le bien qui détermine mon amour. C'est le bien qui attire. Mais la connaissance est nécessaire pour que le bien exerce cette attraction. Je ne peux pas dire que c'est la connaissance qui détermine mon amour. Je dois dire que la connaissance est une condition sine qua non pour que le bien puisse jouer ce rôle de m'attirer. Oui. J'espère que c'est suffisamment clair. C'est important de bien saisir cela, c'est très important. Parce que si je dis que ma connaissance détermine mon amour, vous comprendrez qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui est au-delà du bien, c'est la connaissance. Et la connaissance mesure mon amour. Et donc la connaissance est ce qui spécifie, ce qui détermine. Ce n'est plus le bien. Et je n'explique pas ce que c'est que l'amour. L'amour n'est pas la connaissance. L'amour est autre chose que la connaissance. L'amour va plus loin que la connaissance. Vous savez bien ce fameux passage de saint Thomas, qu'il ne faut jamais oublier, qui est quand même très très important, dont saint Thomas se pose la question, est-ce que c'est la volonté ou est-ce que c'est l'intelligence qui est première? Saint Thomas dit, l'intelligence a une noblesse dans sa manière de s'exercer que la volonté n'a pas. Mais quand il s'agit d'aimer un bien qui est supérieur à moi, l'amour passe avant l'intelligence. Ça, c'est un très beau passage. C'est un passage à mettre analogue entre, lorsque saint Thomas se pose la question, entre l'être et le bien. Et quand saint Thomas nous dit que l'être, du côté de l'intelligibilité, passe avant le bien, et que du côté de la causalité, le bien passe avant. Ça, on touche là des choses tout à fait capitales, les rapports entre intelligence et volonté, c'est-à-dire entre connaissance intellectuelle et amour. Ça, c'est très, très important. Il faut arriver petit à petit à comprendre ça. Ça, il faut réfléchir longuement, parce que ça ne se fait pas tout de suite. C'est quelque chose de difficile, oui.
Quelle est cette noblesse supérieure de l'intelligence par rapport à la volonté?
Parce que l'intelligence a un mode plus parfait que la volonté. La volonté se porte sur la réalité. Et l'intelligence est assise. Elle a un mode abstrait, donc elle connaît par mode universel. Donc elle a une possibilité d'étreindre. Alors que la volonté ne se porte que sur une seule réalité. Je ne peux pas vouloir tous les biens, je peux les connaître tous. Ah, c'est bien plus noble. C'est une noblesse de l'intelligence qui est unique. Évidemment, Descartes ne dirait pas ça. Parce que Descartes, c'est la liberté par où je suis en plus grande noblesse par rapport à Dieu, comme vous avez dit hier. Hein? Alors ça, c'est la noblesse la plus grande, alors que ça ne m'a pas du tout. L'intelligence a une noblesse unique, elle me donne l'autonomie. Ça, c'est la noblesse de l'intelligence. C'est la noblesse de l'intelligence. Il faut reconnaître qu'à cette noblesse unique de l'intelligence, elle me donne l'autonomie. La volonté ne me donne pas l'autonomie. L'amour ne me donne pas l'autonomie. Et c'est ce qui explique la possibilité d'une tentation d'orgueil. La tentation d'orgueil repose sur quelque chose qui est vrai. C'est qu'il y a un certain moment où l'intelligence passe avant l'amour. C'est du côté de la noblesse de mon opération. Oui. Alors la tentation, c'est d'être séduit par ce mode de noblesse de l'intelligence, c'est de faire que l'intelligence passe avant l'amour. Ça, c'est la grande séduction intellectuelle. Il faut sentir cette séduction. Si on l'a jamais senti dans sa vie, il vous manque quelque chose. N'est-ce pas? Il faut sentir cette séduction de l'intelligence. Et sentir que cette séduction de l'intelligence fait qu'en effet, on peut opter pour ce primat de l'intelligence. Et si j'opte pour ce primat de l'intelligence, alors à ce moment-là, mon intelligence mesure mon amour, et je suis moi-même le maître de tout. Connaissance. La grande séduction. Ça, il faut le sentir. Il faut sentir cette séduction pour être victorieux de cette séduction. Et être victorieux de cette séduction, c'est considérer que lorsqu'il s'agit d'un bien qui est supérieur à moi, c'est-à-dire Dieu et le prochain. Le prochain est supérieur à moi en ce sens qu'il a un bien personnel, l'homme. Il est supérieur à moi en ce sens qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Donc je dois l'aimer pour le connaître parfaitement. Je ne peux jamais connaître un homme sans l'aimer. C'est l'infériorité radicale de la psychologie. C'est pour ça que la psychologie ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour. Parce que la psychologie est d'ordre de la connaissance. Or, pour vraiment connaître une personne humaine, il faut l'aimer. Tant que je n'ai pas aimé quelqu'un, je ne peux pas comprendre que la personne humaine a quelque chose d'absolu. Donc je reste dans le domaine de la connaissance. C'est pour ça que la psychologie ne sait pas ce que c'est l'amour. Elle sait le conditionnement de l'amour, c'est-à-dire le désir. Mais pas l'amour. Il ne faut pas trop dire ça aux psychologues, parce que ça les fait irriter. Alors, c'est pas la peine de les irriter, mais de temps en temps, c'est bon de leur dire. Quand ils sont capables de comprendre. Alors à ce moment-là, on fait comprendre que la psychologie ne peut pas me dire vraiment ce que c'est que l'amour. Et que seul l'amour me permet de comprendre ce dépassement d'un bien personnel qui me permet d'aller jusqu'au bout. Oui. Bon. Vous voyez? Alors, je continue la petite phrase. Le bien spécifie mon amour, très juste. Mon intelligence le détermine, non. Mon intelligence ne détermine pas mon amour. C'est le bien qui détermine mon amour. Je n'aime pas parce que je connais, vous voyez. Ah, je t'aime parce que je te connais. Hein? Quelqu'un qui vous dit ça, c'est pour qu'il ne vous aime pas.
Et quand quelqu'un dit ça,
je t'aime parce que c'est toi. tout simplement. J'aime l'autre parce que c'est une personne humaine, parce que c'est toi. C'est l'autre que j'aime. C'est la personne humaine que j'aime. Alors, il faut la connaître pour l'aimer. Condition sine qua non. Mais la condition sine qua non ne détermine jamais. La condition sine qua non n'est pas de l'ordre de la causalité, de la causalité formelle qui détermine. La condition sine qua non, elle est nécessaire dans l'ordre de l'exercice. C'est très très important, la condition sine qua non. Parce que si ça n'existait pas, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas d'exercice, il n'y aurait pas d'attraction s'il n'y avait pas la connaissance. Et la connaissance n'explique pas l'attraction. Qu'est-ce qui explique cette attraction prodigieuse de l'amour à l'égard du bien? C'est bien lui-même. Et ça, ça reste mystérieux. Là. Je ne peux jamais l'analyser. Je ne peux jamais l'analyser. C'est le bien qui m'attire. C'est le bien qui m'attire et le bien en m'attirant réalise quelque chose en moi que je ne peux pas expliquer et que je n'expliquerai jamais. Et le jour où je l'explique, ce n'est plus ça. Il faut comprendre que l'amour échappe à l'analyse philosophique. C'est pour ça que tout le rationalisme philosophique ne parle plus d'amour, parce qu'il ne pourrait plus être une philosophie rationnelle. Le primat d'une philosophie rationnelle, qui est à partir de Occam, faut bien voir philosophiquement à partir du XIVe siècle. À partir du XIVe siècle, on a voulu expliquer l'amour par la logique. Le logicien, il croit toujours expliquer l'amour. En tant que logicien. Parce qu'il n'aime pas. Autrement, il ne serait plus logicien. C'est pour ça que c'est très bien d'être logique comme point de départ de formation, mais ce n'est pas suffisant. Ni la grammaire, ni la rhétorique. C'est très très bien, mais c'est du reste, c'est pas tout à fait juste hein, de dire ça comme ça. Voyons, on extrait. N'oublions pas que c'était dans un milieu chrétien. Dans un milieu chrétien, on éduquait par le point de vue de la prière. C'était dans un milieu monastique. Alors on éduquait la prière. Alors ça s'est passé des moines à l'université et ça a été le danger. Parce que dans l'université, il n'y avait plus le milieu monastique. Et c'est à partir de là que tout était faussé. Il faut bien comprendre ça. Hein, c'est que ce Trivium, et c'était très juste à l'intérieur d'un milieu monastique. À l'intérieur d'un milieu monastique, c'est-à-dire à l'intérieur d'un milieu d'adoration, de prière et de contemplation. Et de vie liturgique, qui englobait, qui faisait une vie morale, religieuse et chrétienne. Alors à l'intérieur d'une vie religieuse, morale et chrétienne, qui maintient l'amour et le primat de l'amour, vous pouvez alors faire de la grammaire. Vous pouvez faire de la rhétorique et vous pouvez faire de la logique sans danger. Mais le jour où ça s'est transporté dans l'université, sans le milieu moral et religieux et contemplatif, c'est devenu terrible. Et c'était mortel. Faut comprendre ça, parce que c'est très très important. Il y a un milieu qui peut porter, un milieu religieux, un milieu moral et contemplatif. Qui peut porter. Mais quand ce milieu n'existe plus, c'est très grave. C'est pour ça qu'il faut d'abord un milieu, vous voyez, de retrouver la contemplation, de retrouver l'oraison, de retrouver le point de vue liturgique pour qu'à l'intérieur de ça, on puisse faire de la grammaire, on puisse faire de la rhétorique, on puisse faire de la logique. Et dans notre monde d'aujourd'hui, nous faisons de la métaphysique avant, plus importante, il s'agit de purifier des idéologies qui n'existaient pas au départ. Donc quelque chose de tout à fait nouveau aujourd'hui. Nous sommes bombardés par des idéologies. Et ces idéologies, on doit les purifier, parce qu'on est tous à respirer ces idéologies. Et ces idéologies mettent toujours l'idéologie avant l'amour. Alors il s'agit de se purifier de ça.
Est-ce par là qu'il faut comprendre que l'intelligence purifie le cœur?
Oui, l'intelligence purifie le cœur parce que c'est nécessaire de connaître pour aimer. Mais ce n'est pas l'unique chose. Nous allons le voir après ça, donc je ne le dis pas maintenant. C'est que l'intelligence purifie l'imaginaire.
Ce n'est pas l'amour qui purifie l'imaginaire. Alors ça, c'est très très important. On va le voir, ça. Parce que, alors là, je vais insister là-dessus, parce que c'est les grandes purges dont nous avons absolument besoin. Tout ça cause de l'idéologie. On a besoin de cette purification d'intelligence dans notre monde d'aujourd'hui. Car au Moyen-Âge, on avait beaucoup moins besoin. C'est là où il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas reprendre le Moyen-Âge tel qu'il a été vécu. On ne peut plus. On doit retrouver aujourd'hui, et c'est ça la difficulté, on doit retrouver aujourd'hui un climat dans lequel on peut retrouver une intelligence métaphysique capable de s'incliner devant l'amour et pour le laisser en premier. Alors, encore une dernière question, et puis après, nous reviendrons à nos moutons. Comment se pose et se résout le problème de la fin ultime de l'homme en éthique? Vous comprenez que ça, vous touchez là tout de suite un problème que je ne traite pas maintenant, parce que je vous ai dit, nous regardons et nous partons de l'expérience de l'amour d'amitié. Toute l'éthique repose sur l'expérience de l'amour d'amitié. Progresser ensuite, voir que cette éthique au niveau humain va se compléter dans une éthique religieuse et que cette éthique religieuse va se compléter dans une éthique chrétienne. Et c'est quand je toucherai l'éthique religieuse que je pourrai parler de la fin ultime de l'homme. Jusque maintenant, nous n'avons pas encore parlé de la fin ultime. Nous avons parlé simplement de la fin propre de l'homme. Oui, même distinction que je faisais ce matin entre cause efficiente propre ou cause efficiente première. Il faut bien comprendre ça, c'est un langage qu'il faut préciser parce que c'est très très nécessaire. Donc, nous sommes partis, hein, je reprends si vous voulez, puisque nous arrivons maintenant au terme de cette première analyse. Alors, je voudrais que vous compreniez bien les démarches que nous faisons, parce que c'est quand même important de bien comprendre cette démarche. Pas mettre la méthodologie au-dessus de tout, mais il faut un minimum de méthode, hein, pour ne pas tout dire en même temps que tout. Alors, nous sommes partis de l'expérience de l'amour d'amitié. Dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, après Nietzsche, je ne peux plus dire que la morale repose sur le devoir. Parce que je ne peux pas mettre entre parenthèses Nietzsche en disant Nietzsche n'a pas existé. Donc je suis conscient à travers tout malgré Nietzsche. Non, je ne peux pas dire ça. Si je dis ça, ça prouve que je n'ai pas compris. Parce que vous vous trouverez devant des Nietzschéens. Vous trouverez. Et on est tous un peu Nietzschéens par les bords. La sacrée droite, hein, qui reprend aujourd'hui, elle est Nietzschéenne. Il ne faut pas lui dire ça, elle est furieuse quand on lui dit elle est Nietzschéenne. Alors, il faut comprendre que de fait, Nietzsche, il est présent dans tous les bouts. Et c'est très vrai, Nietzsche, il a une emprise très très forte. Bon, Nietzsche détruit Kant. De ce point de vue-là, il est bon. Parce que la destruction de Kant est une chose bonne, qui nous libère de quelque chose assez effrayant. Vous le verrez au séminaire sur Kant, hein, et vous verrez combien Nietzsche nous libère de cette espèce de prison dorée que nous donne Kant. Prison dorée. Ça ne devrait pas être drôle de voir Kant. Kant ne devrait pas être drôle dans son cours de philosophie. C'est bien dommage qu'on n'a pas un magnétophone qui marquait le cours de Kant dans ma vie. Mais ça ne devrait pas être très drôle. Ça ne devrait pas être très drôle. À ce moment-là, le docteur, le professeur, c'était quelque chose d'absolu. Alors on écoutait, on ne disait rien, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Vous avez Clavel qui dit ça admirablement, hein, quand il dit « La plus grande difficulté pour moi, c'était d'entrer dans Kant, et une fois que je suis entré, je n'en suis pas sorti. » Et c'est vrai, Clavel n'est pas sorti de Kant. C'est très vrai. Et alors, c'est intéressant de voir comment quelqu'un comme Clavel n'est pas sorti de Kant. Nietzsche pour faire sauter ça. Alors, après Nietzsche, je suis obligé de reprendre, et c'est vrai, je suis obligé de reprendre le problème de la philosophie éthique à sa racine. À sa racine. Qu'est-ce qui fonde la responsabilité humaine? C'est le grand problème. Qu'est-ce qui fonde la responsabilité humaine? Où est-ce que je puis trouver un fondement de la responsabilité humaine? Bien, je dis l'amour d'amitié. Parce que l'amour d'amitié fait le lien entre deux personnes humaines. Deux personnes humaines sont liées dans l'amour d'amitié. Ça, je ne peux pas nier. Si j'en ai l'expérience, tant mieux. Si j'en ai pas l'expérience, je vois qu'en effet, il y a un lien. Un lien de deux personnes. Et ce lien de deux personnes implique justement une responsabilité mutuelle. Ces deux personnes sont de fait en liaison l'une avec l'autre. Il y a une responsabilité. La responsabilité naît au niveau d'un amour. Sans amour, pas de responsabilité. Un intellectuel pur, c'est pour ça que les intellectuels aiment d'être des intellectuels purs. Ils n'ont pas de responsabilité. Laissez-moi tranquille. Je ne veux avoir aucune responsabilité. J'aime mieux. J'aime mieux. C'est vrai que c'est pas commode d'avoir des responsabilités. Deux personnes qui s'aiment. Bon, alors, nous allons essayer d'analyser pour bien comprendre. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour bien comprendre tous les éléments qui sont impliqués dans l'amour d'amitié. Nous avons analysé ça jusqu'au bout. Que c'est ce que nous avons fait ensemble. Maintenant, je vais relever le résultat de cette analyse ensemble pour bien voir si le résultat de cette analyse me montre que grâce à l'expérience d'amour d'amitié, je suis en présence de ce que représente le développement normal de l'agir en moi, de cette activité morale. Pratein, comme dirait Aristote, de ce que représente l'agir moral. Oui, alors, je vais maintenant prendre les résultats. Donc, ça présuppose toute l'analyse que nous avons faite, et je prends maintenant les résultats. Je crois que c'est nécessaire, de toute façon, s'assied quelques minutes. Hein. Parce que prendre les résultats, c'est s'asseoir quelques minutes, et de comprendre qu'en effet, il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous avons vu. Je vais prendre. Les scolastiques disaient qu'il y avait la charge en 12 temps pour l'acte moral. Alors nous allons voir si nous avons à avoir la charge en 12 temps. C'était le bon Dieu Gardel qui disait ça. La mitrailleuse, non ? Alors, la charge en 12 temps. Vous avez vu, on a vu l'amour spirituel qui porte sur le bien spirituel. C'est-à-dire la personne. Nous avons ensuite, second moment, vu cet amour qui se transformait en intention. Et ceci, c'est le passage du bien à la fin.
Ouais, je relève, hein. Donc ça c'est facile. Vous allez commencer à le savoir par cœur, ça. Hein, et à le comprendre, j'espère. Et je vous disais qu'il y avait là une intervention d'intelligence plus profond pour l'intention que par rapport à l'amour spirituel. L'amour spirituel réclamait la connaissance uniquement comme une condition sine qua non. Tandis que dans l'intention, c'est beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ordre. Dès que l'ordre apparaît, l'intelligence est présente et détermine. Vous voyez, vous me diriez que l'intelligence détermine l'intention, je dirais oui, mais ne détermine pas l'amour. Ça, je crois que ça doit vous aider à mieux comprendre. Hein. L'intelligence détermine l'intention, puisque l'intention de vie implique un ordre. Et donc, il y a là nécessairement une intervention d'intelligence beaucoup plus profonde. Tandis que dans l'amour spirituel, l'intervention d'intelligence est simplement une condition sine qua non. Alors vous avez là quelque chose de très important, je l'ai déjà souligné, mais je le redis, quelque chose de très important, ce passage d'un amour spirituel qui va mûrir. s'il mûrit bien, il se transforme en une intention de vie. S'il mûrit bien, s'il mûrit mal, il se transforme en velléité. Et ça arrive souvent. Et vous savez très bien comment l'amour spirituel se transforme en velléité. Il y a des quantités de velléitaires dans le monde d'aujourd'hui. Des quantités. Qu'est-ce que c'est que le velléitaire? C'est justement des hommes qui ont aimé, qui aiment, qui continuent d'aimer, mais qui aiment sans que ça se mûrisse. Vous savez bien, même si on le met dans le frigidaire, ça marche pas. C'est pas possible. Alors, la velléité. Mais la velléité, c'est l'imaginaire qui remplace l'intelligence. Ça, c'est très, très important. C'est l'imaginaire qui transforme. Vous voyez, c'est pas l'amour qui se corrompt de lui-même, il se corrompt par l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui corrompt l'amour. Et c'est l'imaginaire qui fait de moi un homme velléitaire. Quand je ne suis plus assez intelligent, je me laisse aller à l'imaginaire. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est capital de comprendre ça. Et le démon le sait, vous savez. Ça, entre parenthèses, au point de vue théologique. Le démon sait que l'amour spirituel le plus beau, le plus grand, le plus noble qui soit, se transforme en velléité par l'imaginaire. Donc c'est l'imaginaire. Si je suis arrivé à dominer l'imaginaire par le point de vue de l'intelligence, mon amour spirituel va se fortifier dans une intention de vie. Il se fortifie en faisant que tout en moi va être mobilisé en vue de la fin. Je tends vers une fin. Et cette tension volontaire implique un ordre. Troisième moment. Nous avons vu le point de vue du choix. Le choix qui porte sur un moyen, sur les moyens, et le choix de ce qu'il a de plus fort porte sur l'ami. Je choisis un ami. Vous avez dit bien distinguer deux espèces de choix. Et ça, c'est très important. Bien distinguer deux espèces de choix. Un choix qui porte sur l'ami et le choix qui porte sur les moyens. Pas la même chose, c'est pas du même ordre. Et au fond, c'est à l'égard du choix que vous avez tout de suite ces deux aspects. Vous n'avez pas à l'égard de la fin, vous n'avez pas à l'égard de l'amour. Donc, ce qui montre que dans le choix, le point de vue d'intelligence est encore plus important. Le choix est à la fois un acte volontaire et un acte d'intelligence. Les deux sont liés. La pro-agressis. Si je dis ça à cause du séminaire. Ceux qui s'intéressent. La pro-airesis, c'est le choix qui est à la fois de l'ordre de l'intelligence et qui est à la fois de l'ordre de la volonté. Les deux sont liés. Alors, il est bien évident que là encore, l'imaginaire, l'imaginaire, on précisera après. L'imaginaire peut corrompre mes choix. Et ça arrive très souvent que l'imaginaire corrompt mes choix. Alors à la place d'avoir un choix qui est vraiment adapté à ma fin, qui est parfaitement ordonné à ma fin, à la place de choisir vraiment l'ami qui est capable d'être mon bien, capable d'être vraiment mon bien, je choisis l'ami qui n'est pas mon bien. Je choisis le faux ami. L'ami qui sera pour moi uniquement cause de détente, cause de plaisir, cause de... et ainsi de suite. Tout point de vue imaginaire, vous voyez. La destruction du choix qui est une chose si importante, qui est la destruction de la personne. C'est ça qui est très important à comprendre. Nous façonnons en nous notre personne. Et nous la façonnons dans le point de vue du choix. L'imaginaire peut être source aussi d'une chute dans l'ordre de l'amour d'amitié, dans l'ordre du choix. Alors, je vous avais dit qu'il faut bien comprendre que pour que ce choix soit parfait, il y a ordinairement, avant le choix, la phase du conseil. Cette phase du conseil, on était 4, on était 3, il faut peut-être nous mettre 3 et 4 et 3, c'est plus logique, mais c'est ça. On n'est pas comme on compte. On était 3, et puis 4. La phase du conseil, c'est très fort l'information. Mais l'information pratique. Hein. Je demande conseil. Je demande conseil pour mieux juger du choix. Pour mieux voir. Vous voyez, chez Descartes, le conseil. Hein. La phase du conseil chez Descartes. Alors, le conseil, c'est l'intelligence qui vient m'informer pour mieux comprendre tous les possibles. Et quand je vois tous les possibles, je peux mieux choisir le possible qui est le plus adapté à ma fin, le possible qui est le moyen le plus parfait. Après cela, cinquièmement, il y a l'impérium. L'impérium. Fais ceci. Cet acte d'intelligence. Fais ceci. Cet acte d'intelligence, vous voyez, alors c'est ça qui est très important à souligner. Ça me semble une chose très très importante à voir. Combien l'intelligence pénètre de plus en plus dans cet amour spirituel. Combien l'intelligence va pénétrer dans cet amour spirituel pour arriver au moment de l'impérium à être dominant et à déterminer. C'est l'intelligence qui détermine l'impérium. L'impérium est premièrement un acte d'intelligence présupposant la volonté de l'autre. Mais alors, on pourrait dire que l'impérium, c'est la victoire de l'intelligence, dans l'ordre pratique, c'est vrai. L'impérium, c'est le commandement. Fais ceci. Quand je me commande à moi-même, c'est toujours impressionnant le commandement. Le commandement à l'égard de soi, le commandement à l'égard des autres. Fais ceci. Ou je prends à ce moment-là, en main ma vie, vous voyez, elle brise déjà au point de vue de l'intention de la vie, mais dans l'impérium, d'une façon très très nette. Les faux intellectuels manquent d'impérium. La cérébralisation, c'est justement mon impérium qui perd sa vigueur. Je suis incapable de me jeter à l'eau. Incapable. C'est mon intelligence s'est laissé corrompre par l'imaginaire. Encore une fois. Vous voyez, l'imaginaire, hein, la lutte à l'intérieur, hein, premier moment, deuxième moment, troisième moment. Pas commode de lutter contre l'imaginaire. Bigre, dans notre monde d'aujourd'hui, hein. Dans notre monde d'aujourd'hui, c'est l'imaginaire qui arrive petit à petit. Il corrompt l'amour. Il corrompt mon point de vue du choix. Il corrompt l'impérium. C'est extraordinaire, ça. Très, très, très. Et ça ne veut pas dire que l'imaginaire est mauvais. Hein. L'imaginaire est bon. Mais attention, c'est un raz-de-marée. C'est peut-être une violence extraordinaire. Et c'est très vrai, l'imaginaire est une chose extrêmement puissante. Hein. C'est difficile, parce que je n'ai pas de pouvoir absolu sur l'imaginaire. Je ne peux pas dire à l'imaginaire, tais-toi maintenant, laisse-moi tranquille, je veux être intelligent. Non, non, non. Tais-toi, je veux poser un acte d'impérium. Non, non, pas du tout. L'imaginaire est là. Et ça, il faut le comprendre. Hein, ça, c'est une fausse intériorité, l'imaginaire. Mais c'est quand même une intériorité. C'est un domaine extraordinairement important. On l'a pas assez étudié, vous voyez. Ça, c'est très... On a laissé ça à Freud d'étudier l'imaginaire. On a laissé ça aux autres. D'Aristote à Freud, il n'y a pas eu de traité sur les rêves. Aristote en a fait, Freud en parle. Entre deux, rien. Tous les intellectuels se sont laissés contaminer par l'imaginaire. Alors, ils se sont laissés contaminer par l'imaginaire, c'est évident, c'est dangereux. Parce que c'est les intellectuels, l'imaginaire est fort, hein, vous comprenez bien. Chaque fois que parce qu'on a besoin de l'imaginaire, on en a besoin. Il n'y a pas beaucoup de danger si vous faites la cuisine toute la journée. Parce que votre beefsteak, il faut quand même le cuire. Alors il y a moins de danger. Le feu est là pour vous rappeler. Évidemment, c'est ça qui est important. Il faut que ce soit chaud à telle heure, hein, et non pas froid. Parce que si c'est chaud à telle heure, c'est l'imperium, ça. Il faut que ce soit chaud à telle heure. Ça, c'est l'imperium. C'est nécessaire. Ça fait partie de l'impérium de l'intelligence qui commande, voilà, tel moment, exactement, l'impérium, c'est fait ceci, c'est très très important ça, l'impérium, c'est ce qui me fait passer à l'exécution, la phase d'exécution, on jette à l'eau, l'impérium, l'exécution, une fois que j'ai l'exécution, sixième moment, L'usage qui implique l'application. Et septième moment, la joie. Alors comprenons bien ça. Septième moment, la joie. Alors, vous voyez que tous ces actes peuvent être dédoublés. Hein. J'ai mis l'intelligence à côté de temps en temps. C'est dans ce sens qu'on dit la charge à 12 temps. Ou en 14 temps. Ce que vous voulez, hein. Avec la surcharge, 14 temps. Mais au fond, c'est en 12 temps, en ce sens que c'est toujours intelligence et volonté. Toujours intelligence et volonté. Alors je peux tous les dédoubler. Tous, je les dédouble. Et en les dédoublant, je prends intelligence et volonté. Et je vois le lien entre les deux. Oui. Et parce qu'il y a intelligence et volonté, il y a toujours la possibilité de l'imagination. C'est ça qui est extraordinaire. Tout ça se réalise dans la lutte. Il faut lutter, lutter, lutter. Jusqu'au bout. Alors, l'usage, l'application. Je m'applique. Je veux faire ceci, donc je m'applique. Là, il faut être éveillé. Je m'applique. Le réveil sonne le matin. L'usage, hein, je sors de mon lit. C'est... Puisque j'ai décidé de me lever à telle heure. Puisque je sais que je dois me lever à telle heure. Alors à ce moment-là, il ne s'agit pas de réfléchir. Ah tiens, ça résonne. Je fais ça un petit peu. Quand on voyage de droite et de gauche, on ne sait plus très bien où l'on est, et on dit, tiens, où est-ce que je suis? Dans quelle image je me trouve? Alors ça, c'est le passage de l'impérium. On s'est endormi, on n'a pas eu beaucoup de temps de sommeil. On a un sommeil profond. Alors avant l'application, il faut se réveiller quand même. Normalement, on n'est pas des êtres automatiques. N'est-ce pas ? Et alors, il faut vraiment, dès qu'on entend le réveil, il faut d'abord se rappeler que c'est le réveil. Et bien alors, l'application. L'application, c'est que on est là, prêt à se jeter au pied du lit pour prier. Vous voyez, première chose à faire, premier acte d'adoration. Ça, c'est en dehors de charme. L'application, l'adoration, c'est l'application. Je mets immédiatement. Il vaut mieux se réveiller bien. Si dès que vous vous réveillez, l'impérium, vous adorez, vous vous réveillez bien. Oui. C'est là, je dis ça, c'est un nota bene. Alors, il y a l'application, on applique tout pour être là présent. c'est la présence de soi à soi-même. Et la joie de rejoindre la séance. Septième acte, on rejoint la personne. Je vous ai dit, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit pourquoi il y a l'intention. Pourquoi de l'amour spirituel il faut naître l'intention. C'est parce qu'il y a une distance, une diaphora, une différence entre l'union affective et l'union effective. S'il n'y avait pas de différence entre l'union affective et l'union effective, s'il y avait l'union substantielle, il n'y aurait que l'amour. En Dieu, il n'y a que l'amour. Il n'y a pas d'intention de vie en Dieu. Parce que l'union affective est substantielle. Tandis que pour nous, l'union affective est intentionnelle. Et parce que l'union affective est intentionnelle, elle réclame l'union effective. Elle réclame la présence réelle. La présence physique. Alors, il faut cela. Et c'est pour ça qu'il y a l'application. C'est pour ça qu'il y a l'exécution. C'est pour ça qu'il y a tout cela. Tout ça est en vue, vous voyez. Alors, c'est ça qui est très important, parce que ça nous fait saisir ce que représente cette démarche de l'agir. Vous voyez, l'agir, c'est reconnaître que tout commence par l'intériorité, mais qu'ayant un corps, il faut que tout s'incarne. Si nous n'avions pas de corps, nous n'avions pas besoin d'incarnation. Je ne sais pas comment ça se passe pour les anges, demandez-leur. Pour Dieu, je sais très bien, parce que je connais mieux Dieu que les anges au point de vue philosophique, heureusement. Je connais mieux que Dieu. Je sais que Dieu, pour Dieu, c'est l'amour substantiel qui est tout. Donc il n'y a pas de hiatus entre l'union affective et l'union affective. Parce que l'union affective est substantielle. Pour moi, l'union affective est intentionnelle. Et donc, elle a besoin d'être complétée par une union effective. Et pour cette union effective, il faut nécessairement l'intention, le choix, l'imperium, l'usage. Et tout ça est commandé par cela. C'est pour ça qu'il faut que l'union affective soit très forte. Parce qu'entre deux, étant donné qu'il y a la lutte, si l'union affective n'est pas forte, j'arrête. Je calme. Adieu, ça. Trop de difficultés. C'est pour ça qu'il faut tout le temps venir à cette union affective, parce que c'est elle qui me fortifie et qui me donne la possibilité d'aller jusqu'au bout. S'il n'y a pas cette union affective, impossible. Je calerai. Alors, vous voyez, je ne sais pas ce que fait Kant, hein, parce que l'union affective, au point de départ, elle est assez particulière. Alors, on parle de l'hyperunion. C'est très très curieux ça. Il doit se fortifier dans la volonté d'efficacité. Alors on se fortifie dans la volonté d'efficacité parce qu'il n'y a pas la volonté aimante. Alors ce qui fait comprendre que ça devient quelque chose de très très rigide. Tandis que quand il y a l'union affective, il y a toute la souplesse de l'union affective, il y a toute la souplesse de l'amour. Et l'amour enveloppe tout cela pour cette union effective. Qui se fait de plus en plus pressante. Vous voyez que l'union affective se réalise grâce à l'intelligence. C'est l'intelligence qui me donne le réalisme de l'amour. Et s'il n'y a pas cette intelligence qui me donne le réalisme de l'amour, eh bien l'imaginaire l'emportera, je tomberai dans la vérité. Et j'aurai plus rien du tout. J'aurai un souvenir d'un amour. C'est ça le vanité. J'ai aimé dans ma vie. J'ai aimé ma vie. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oui, c'est ça, c'est le point de vue velléitaire qui fait qu'il n'y a plus cette tendance profonde. Alors, l'application de l'usage et la présence. La présence, c'est la joie. Là, je rejoins l'union affective. Nous réalisons ensemble quelque chose pour que cette présence soit plus parfaite. Alors, ça, c'est C'est au niveau du choix, c'est au niveau du périlleux. Quand on dit le même vouloir réaliser quelque chose avec son ami, tout ça, c'est de l'ordre du périlleux. C'est de l'ordre de l'usage. Et là, c'est la joie de la présence. Oui.
Si à la place de la joie, il y a la tristesse, est-ce que c'est l'imaginaire
encore? Ça, c'est autre chose. Ça, ça fait partie de la lutte. Parce qu'il y a de la lutte, il peut y avoir de la tristesse. Dans toute lutte. Dans toute lutte, il y a un grand mot. C'est ça, c'est en toute lutte. Dans toute lutte, il y a nécessairement une place de la tristesse. Parce qu'au fond, le point de vue de la présence effective ne se réalise pas. Elle est retardée. Il y a eu l'imperium, mais ça n'a pas réussi. L'application, vous voyez, je suis en face d'obstacles. C'est dans la lutte. Si ce n'était pas dans la lutte, il n'y aurait pas ça. La joie n'est pas l'amour. C'est le rayonnement de l'amour. Alors, l'amour peut rester et la tristesse est présente. Mais ce n'est pas un signe de l'imaginaire, la tristesse. Non. C'est autre chose. C'est parce que, de fait, la présence effective n'est pas réalisée. Alors, il y a la tristesse. Alors, la tristesse peut aussi être source d'imaginaire. Ça, c'est sûr. Dans l'imaginaire est tout le temps là. C'est ça la difficulté, c'est ça que nous allons essayer de comprendre. Donc, vous voyez bien, je crois que l'analyse que nous avons faite d'amour d'amitié implique tous ces éléments. Alors, ce qui est très curieux, alors là c'est vraiment très étonnant, c'est que tous ces éléments sont les éléments classiques de l'acte moral. Mais je les ai découverts à l'intérieur de l'amour d'amitié et non pas, si vous voulez, donné a priori. Et c'est pour ça que c'est important de sortir de l'amour d'amitié et maintenant comprendre, une fois que j'ai vu tous ces éléments, en effet, ceci me montre bien que l'amour d'amitié noue mon agir et me montre l'agir dans ce qu'il a de plus fort. L'agir moral implique tous ces éléments. Et tous ces éléments, donc, me montrent bien que je suis en présence du développement même de mon action morale, de mon activité morale. Et que cette activité morale ne peut naître que lorsque je suis en présence d'un bien humain qui est une personne. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
que vous avez réfléchi sur les diverses activités morales que nous avions ensemble essayé de rassembler. Vous n'avez aucune autre, hein? Très bien, très bien. Alors, troisième moment, vous comprenez bien. Et son troisième moment. Nous allons donc essayer maintenant de voir que, de fait, l'analyse que nous avons faite de l'activité de l'amour d'amitié implique tous ces moments au sommet. Vous voyez bien. C'est l'analyse que nous faisons successivement. Nous avons analysé, nous sommes partis de l'expérience d'un amour d'amitié. Nous avons analysé le plus profondément possible ce qu'ont représenté l'amour d'amitié. Puis nous nous sommes posé la question, est-ce que cette description et cette analyse que nous avons donnée de l'amour d'amitié, est-ce que de fait, ça implique toutes les modalités particulières de l'acte moral? Pour cela, je fais l'enquête. Quelles sont nos diverses activités morales? Nos diverses activités où nous sommes responsables. Nous avons énuméré la dernière fois. Vous avez pris les notes, moi j'ai pas pris les notes. Vous avez pas. Je suis pauvre. Il y a encore un avoir, donc je ne peux pas mobiliser. Mais ça n'est rien, je crois que je vous rappellerai. Si j'oublie, vous me le direz. Alors, troisième moment, une fois qu'on a fait ça, nous voyons tout simplement que tout ce que nous avons vu est présent dans l'activité, dans l'analyse de l'activité de l'amour d'amitié, c'est présent, et c'est présent au maximum. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez? Parce que ça me permet de dire que cette expérience de l'amour d'amitié est bien ce qui illumine toute la philosophie morale. Nous allons tout simplement maintenant reprendre, et nous allons par le fait même comprendre les dimensions de la volonté. Nous avions vu d'abord l'amour, c'est pas la peine d'insister dessus, mais j'insiste toujours en comprenant cet amour spirituel, cet amour fondamental qui porte sur le bien, et au-delà du point de vue moral. Pour ça, c'est très important de comprendre. L'amour n'est pas moral. C'est pour ça que je peux appliquer l'amour à Dieu. Si l'amour était essentiellement moral, vous comprenez, hein? Tandis que l'amour n'est pas moral. Donc, première constatation, l'amour n'est pas moral. L'amour est d'une dimension beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus réelle que l'aspect proprement moral. C'est intéressant pour voir à quel moment naît le point de vue moral. Alors, si ça vous scandalise, remettez-le. En objection devant, c'est vrai, c'est intéressant de voir ça. Parce que ne moralisons pas ce qui ne doit pas être moralisé. Et comprenons ce que c'est qu'exactement le point de vue moral. C'est très grand. Donc, il faut bien l'encadrer. Et l'encadrer, c'est voir sur quoi ça se fonde. Alors on pourrait dire, voyez, la morale se fonde sur l'amour. C'est ça qu'il faut dire. Quand on parlait d'un fondement de morale, j'avais dit l'amour d'amitié. Mais non, ce n'est pas l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est l'expérience qui dévoile le point de vue moral, mais le fondement de toute morale, c'est l'amour. Qui est fondement comme condition sine qua non. C'est ça le fondement, c'est la condition sine qua non. S'il n'y avait pas un fondement ici, vous enleviez le fondement, ça croulerait. Hein? Condition sine qua non. C'est ça le fondement. C'est pas une cause de fondement. C'est une condition sine qua non. C'est quelque chose de fondamental qui est nécessaire pour que le reste puisse exister. Alors, il faudrait peut-être arriver à dire ceci. Hein? J'essaie d'expliquer ce que nous voulons avancer toujours plus. L'amour spirituel, dans ce qu'il a de plus naturel, donc en impliquant tout autre amour, est vraiment la condition sine qua non de la morale, donc c'est le fondement de la morale. Une morale n'existe que s'il y a amour spirituel. Je crois que devant ça, personne ne peut rien dire. C'est que personne ne peut rien dire. Il n'y a pas de morale s'il n'y a pas d'amour spirituel, c'est évident. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est traqué, qui agit par peur, une frousse intendée cause d'annulation de mariage, comme on dit. C'est-à-dire, pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas de mariage, c'est pas une cause d'annulation. Il n'y en a pas eu, donc il n'y a pas annulé. Il y a constaté qu'il n'y a pas eu de mariage. Pourquoi ? Il a été traqué. Et moi, la fille, parce qu'en disant, quand c'est deux garçons, dit ça ne joue pas. On a sorti une fois cet argument. J'allais presque dire c'est du temps passé, ça fait partie du Moyen Âge. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un garçon peut être aussi bien traqué qu'une fille. Mais là, alors, cause traquée, vous voyez bien, le père qui fait une scène énorme. J'ai vu cette chose-là une fois. Un garçon voulait se marier avec quelqu'un, et il annonce ça à son futur beau-père, qui en plus de ça était médecin. Bon, ça a ajouté, parce que il avait une attitude assez particulière de clause. Il s'est malade, il avait un pouvoir extraordinaire là. Il a joué ça pour alors il s'est marié à cause de la colère de celui qui devait dire son beau-père. Alors, quand j'ai avancé cet argument, donc quand j'ai avancé cet argument, cet argument serait très très fort et serait sûrement très efficace si j'avais été la philosophie. J'ai rien dit, c'était l'officialité. Alors quand c'est l'officialité de Castel, alors, mais j'ai trouvé que ça ne signifie rien du tout. Parce qu'au fond, on cherche à savoir si on pose un acte dont on est responsable.